4000 ans d'histoire. Une chronique historique hebdomadaire, tous les lundis de 16h30 à 17h, présentée par Elias Acocca-Vigneron. Professeur d'histoire, je vous parle aujourd'hui des Juifs de Sépharade, c'est-à-dire des Juifs d'Espagne. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2021. À la même date, en 1204, s'éteignait l'un des plus grands savants du monde juif, Moïse Maïmonide, à Fostat à l'âge de 66 ans. C'est aussi un 13 décembre 1474 qu'Isabelle la Catholique devient reine de Castille à l'âge de 23 ans et c'est elle qui, en 1492, va expulser les Juifs d'Espagne. Alors je remercie Marc et Maggie de « C'était pas prévu au programme », mais aussi l'application de Paris à l'anglaise, Yes or No. Et je vais donc vous parler de ces Juifs de la péninsule ibérique, les Juifs de Sépharade, puisque les Juifs de la péninsule ibérique étaient au départ appelés Sépharades. Sépharade en hébreu, ça désigne l'Espagne. Et Ashkenaz, c'était la vallée du Rhin. Alors les Juifs sont présents depuis longtemps dans la péninsule ibérique. Ils sont présents dès la conquête romaine. On sait qu'ils sont dispensés de sacrifices à l'empereur, car ils ont pris le parti de Jules César dans la guerre civile qu'il a opposée à Pompée. Et par conséquent, Auguste, fils adoptif de Jules César, qui devient le premier empereur, va dispenser les Juifs de ce sacrifice. Contrairement aux chrétiens, qui, eux, doivent sacrifiés à l'empereur, car ils sont considérés comme une autre religion, ce qui leur vaudra des persécutions, car leur monothéisme leur interdit de faire un sacrifice à une autre divinité que la leur. Et c'est donc dans ce cadre que prennent place les persécutions de l'empereur Dioclétien contre les chrétiens. Et les chrétiens d'Espagne vont réunir un synode, un concile provincial, en l'an 305, qui vise justement à organiser l'Église, notamment face aux persécutions. Et dans ce synode, plusieurs choses sont décidées qui concernent le judaïsme. Il est notamment interdit aux chrétiens d'épouser des femmes juives sous peine d'une excommunication de 5 ans. Il est aussi interdit aux chrétiens de faire bénir leurs champs par des juifs sous peine d'une excommunication à vie. Il est interdit aux chrétiens de manger à la table des juifs. C'est d'ailleurs au cours de ce même concile d'Elvire que l'avortement où l'obligation de renoncer à sa profession d'acteur pour devenir chrétien vont être décidées. Les choses changent en 1394, lorsque Théodose fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Dès lors, les temples païens sont détruits ou transformés en églises. Quant aux Juifs, leur statut est particulier. Théodose II, en 438, précise que les Juifs peuvent pratiquer leur culte, mais que l'accès à des fonctions publiques leur est interdit, de même que le prosélytisme ou que les mariages mixtes avec des chrétiens. En l'an 409, des peuples germaniques déferlent sur l'Empire romain, notamment les Visigoths qui franchissent les Pyrénées et qui s'emparent donc de l'Espagne. Alors ce sont des chrétiens, mais ils pratiquent l'arianisme. Les chrétiens ariens, contrairement aux autres chrétiens dits trinitaires, distinguent la nature divine et la nature humaine de Jésus-Christ. Ainsi, dans les représentations de Jésus chez les chrétiens ariens, par exemple dans le baptistère arien de Ravenne, on représente le sexe de Jésus pour bien montrer sa nature, y compris terrestre. Les Visigoths ariens ont une relative tolérance vis-à-vis des Juifs. Le bréviaire d'Alaric, ou l'ex Romana Visigothorum, qui est adopté en l'an 506, abroge les lois anti-juives du code de Théodose, sauf l'une d'entre elles qui interdit aux Juifs tout emploi dans l'armée ou l'administration. Mais les choses vont se gâter, au 5e siècle, lorsque le roi Visigoth Recared abjure l'arianisme et décide d'embrasser le catholicisme romain. Lors du troisième concile de Tolède, il impose la conversion forcée des enfants nés de mariages mixtes entre juifs et chrétiens. Il réaffirme aussi l'interdiction des juifs dans la fonction publique ou les mariages avec des chrétiens. Et même, il interdit aux juifs de posséder des esclaves. Le roi Visigoth Sisbuth, qui règne de 612 à 621, va plus loin. Il oblige les juifs à se convertir ou à quitter le royaume. Et certains juifs vont d'ailleurs quitter à ce moment-là l'Espagne pour aller vers la Gaule et vont faire mine de se convertir. Les mesures d'expulsion des juifs vont être répétées lors de plusieurs conciles, lors du 4e concile de Tolède en 633, puis lors du 11e concile de Tolède en 638, en 675, en 681. On va même, en 694, réduire les juifs sans bien, c'est-à-dire les juifs pauvres, à l'esclavage. Le roi Vitiza, qui règne de 702 à 711, défend à tous les juifs de posséder des maisons, des terres ou de faire du commerce avec l'étranger. Dans ce contexte d'une législation très anti-juive, on comprend que les juifs aient vu d'un bon œil la conquête arabe d'Altaric en 711. Les sources chrétiennes et musulmanes nous indiquent que les juifs n'ont pas aidé à proprement parler à la conquête, mais qu'ils ont assuré la garde des forteresses conquises. C'est donc une nouvelle période qui commence pour les juifs. La péninsule ibérique devient Al-Andalus et les juifs ont le statut de dhimmi. Leur propriété et la liberté de culte leur est garantie. Ils ont même un degré élevé d'autonomie juridique. En revanche, ils doivent payer des impôts supplémentaires, la jizya. Ils doivent porter des vêtements spéciaux, n'ont pas le droit de construire de nouvelles synagogues ni de posséder d'esclaves musulmans. Et en cas de procès, leur témoignage est irrécevable face à celui d'un musulman. Durant cette période de domination musulmane, qui va durer jusqu'en 1492, les juifs de la péninsule ibérique vont être en fréquent contact avec les autres juifs du monde musulman, notamment les juifs orientaux d'Afrique du Nord. Ils pratiquent donc le commerce, mais aussi l'artisanat de bois, de soie, d'or, d'argent, ou l'agriculture. Les juifs vont commencer à utiliser l'arabe comme langue, mais aussi d'autres dialectes comme le judéo-arabe, c'est-à-dire de l'arabe matiné d'hébreu. La communauté juive connaît un premier âge d'or sous le règne d'Abdelrahman III, qui devient calife en 912 et qui se maintient au pouvoir jusqu'en 961. Il est de la famille des Omeyyades, qui a dû fuir le massacre perpétré par les Abbassides et qui s'est réfugié donc dans la péninsule ibérique, loin de la capitale abbasside de Bagdad. Alors, sous cette période, les Juifs connaissent une prospérité exceptionnelle. On peut citer par exemple Asda ibn Shaprout, qui a vécu de 915 à 970 et qui est devenu le médecin de cour d'Abdelrahman, mais aussi son responsable des affaires étrangères et du commerce extérieur. C'est d'ailleurs en sa qualité de diplomate du califat omeyyade de Cordoue qu'il correspond avec le royaume des Khazars dans le Caucase, qui s'est converti au judaïsme au 8e siècle. Il va aussi intercéder auprès des juifs situés à l'extérieur, par exemple, auprès de la princesse byzantine Hélène, en lui demandant un meilleur traitement des juifs de Byzance et en arguant que les chrétiens du califat omeyyade sont bien traités. C'est enfin un poète, notamment un poète en langue hébreu. Au début du XIe siècle, ce califat de Cordoue se désagrège au profit d'une multitude de royaumes qu'on appelle les taïfas. Alors sous les taïfas, les juifs vont trouver à s'engager dans différentes cours, et certains vont même devenir vizirs, c'est-à-dire chefs de l'administration. C'est le cas d'Abraham ben Meir ibn Muadjir à Séville, d'Abu Al-Fayd Hasdai à Saragosse, et surtout de Samuel ibn Negrella à Grenade, qui est vizir durant 30 ans, et qui transmet cette charge à son fils Joseph ibn Negrella. On a aussi des penseurs et des poètes juif comme Salomon ibn Gabriel, qui est un philosophe qui écrit en arabe et qui est un des philosophes du néoplatonicisme et dont l'ouvrage est traduit en latin et va influencer notamment en dehors de la péninsule ibérique, hein, son ouvrage chez Fons Vitae, La source de vie, va influencer la pensée néoplatonicienne médiévale. En 1066, la situation des juifs commence à se dégrader. 4000 juifs, dont Joseph ibn Negrella, sont massacrés lors d'une émeute anti-juive des musulmans de Grenade. Et puis surtout, en 1085, suite à la prise de Tolède par les chrétiens, le roi de Séville fait appel aux Almoravides, une dynastie berbère originaire du Sahara qui prône un islam rigoureux et qui est opposée à l'idée de coexistence avec d'autres religions. Pourtant, les Almoravides qui vont régner sur l'Afrique du Nord et la péninsule ibérique de 1086 jusqu'en 1146, donc plus d'un siècle, vont néanmoins tolérer une certaine présence juive, et c'est notamment sous la dynastie des Almoravides que Juda Halevi écrit plus de 800 poèmes en hébreu qui prônent le retour des juifs vers Sion, et il meurt d'ailleurs en voulant atteindre Jérusalem, soit au Caire, soit à Jérusalem même. C'est aussi de cette époque que Moïse ibn Ezra de Tulède écrit des poésies en hébreu et une philosophie en arabe, le jardin de la métaphore, et que son cousin Abraham ibn Ezra rédige lui aussi des poésies, une grammaire de l'hébreu, mais se livre aussi à la philosophie, aux mathématiques et à l'astronomie. À la période des Almohavides succède celle des Almohades, de 1146 à 1228. Face au succès de la Reconquista, on fait de nouveau appel à une dynastie venue d'Afrique du Nord. Les Almohades sont encore plus rigoureux que les Almohavides. Ils vont obliger les Juifs et les Dhimmis en général, soit à se convertir, les Dhimmis c'est les Juifs ou les chrétiens, donc soit à se convertir, soit à quitter le pays. Alors, le plus célèbre des Juifs de cette période, c'est sans doute Maïmonide, à Rambam, qui est né à Cordoue en 1138, d'un père rabbin et d'une famille qui se faisait appeler Ibn Abdallah. L'arrivée au pouvoir des Almohades oblige sa famille à errer dans le sud d'Al-Andalus. Le petit Maïmonide n'a alors que 10 ans. Puis, 10 ans plus tard, il rejoigne la ville de Fès, la capitale des Almohades. On s'étonne de ce départ vers le centre de l'Empire Almohade, et on en a déduit que peut-être la famille de Maïmonide avait dû se convertir de force à l'islam. Après 5 ans de résidence à Fès, Maïmonide et sa famille partent pour Saint-Jean d'Acre, Akko aujourd'hui dans le nord d'Israël, puis Jérusalem, puis Hébron, et ils seront ensuite à Fostat, capitale des Ayoubides et de Saladin qui a repris Jérusalem aux croisés pour le compte des musulmans. Il devient alors le Raïs al-Yahoud, le dirigeant de la communauté juive, et on a une importante littérature de responsa, c'est-à-dire de lettres échangées, où l'on demande son avis à Maïmonide et où il répond sur des questions de halakha, notamment, et il répond ainsi à des communautés installées en Irak, au Yémen ou en Afrique du Nord. Il est aussi médecin et devient même le médecin personnel de Saladin. On lui doit aussi la Mishneh Torah, écrite en hébreu, qui rassemble les décisions halakhiques du Talmud. C'est aussi à lui que l'on doit les 13 articles de foi que l'on récite à la synagogue et qui commence par Ani Ma'amin. Enfin, on lui doit un ouvrage de philosophie majeure, le Guide des égarés, rédigé en judéo-arabe, dans lequel il veut concilier la pensée aristotélicienne et la foi, à l'instar d'un Averroès pour l'islam et puis plus tard de Thomas d'Aquin pour le christianisme, qui surnommait d'ailleurs Maïmonide l'aigle de la synagogue. Alors si Maïmonide a aujourd'hui une autorité incontestée, il a aussi suscité de son vivant de nombreuses oppositions, notamment dans les communautés juives de Provence, où certains de ses manuscrits ont été brûlés. La victoire des chrétiens à Las Navas de Tolosas en 1212 va porter un coup fatal aux Almohades, qui vont dès lors devoir se replier en Afrique du Nord. Nous faisons une courte page de publicité et je vous parlerai ensuite de la situation des Juifs de Sépharade parmi les royaumes chrétiens du Nord. Alors avant la publicité, chers auditeurs, nous avons parlé des Juifs de Séfarade, c'est-à-dire de la péninsule ibérique, depuis la période romaine jusqu'aux Almohades, et donc ces Juifs qui ont été sous domination romaine, puis wisigothique, puis musulmane. Nous allons maintenant parler, nous intéresser aux Juifs qui étaient installés dans le nord de la péninsule sous domination chrétienne. En effet, si les musulmans ont conquis la péninsule ibérique, ils se sont arrêtés au nord de cette péninsule où subsistent trois royaumes chrétiens, le royaume de Navarre, le royaume de Castille et le royaume d'Aragon. Les chrétiens qui avaient une législation anti-juive assez importante vont néanmoins assouplir leur position à partir de 1085. Alphonse VI de Castille rentre dans Tolède et il l'autorise, les juifs, à garder leurs privilèges lors d'un fuero, c'est-à-dire une loi, un code de loi intitulé Narajá Sepúlveda, qui est pris en 1076. En Aragon et en Catalogne aussi, les Juifs connaissent également une situation favorable. Alphonse II d'Aragon, qui a régné de 1162 à 1196, est un admirateur de la poésie provençale et il protège les savants, dont beaucoup étaient juifs. Et ainsi, de nombreux juifs se retrouvent, de nombreux savants juifs se retrouvent à Barcelone, à Gérone. Ils vont aussi servir de traducteurs, de relais entre la science arabe et la science chrétienne. On peut citer parmi eux le chef de la communauté juive de Barcelone, Chechet Benveniste, qui est à la fois arabisant, médecin, philosophe, poète, talmudiste, et auquel le roi d'Aragon va confier plusieurs missions diplomatiques. On peut aussi citer Benjamin de Tolède, qui vient de Navarre et qui va voyager à travers les communautés juives d'Europe et du Moyen-Orient dans les années 1160, et dont le récit de voyage nous permet de bien connaître ces différentes communautés juives du XIIe siècle. Les Juifs vont participer à la Reconquista, à la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens, puisque certains participent à la bataille de Las Novas de Tolosa en 1212, où la Castille défait les Almohades. Pourtant, leur situation va commencer à se dégrader à partir du XIIIe siècle. Alphonse VII, roi de Castille, avait une politique de tolérance. Mais en revanche, Alphonse X, lui aussi roi de Castille de 1252 à 1284, qui est un contemporain de Saint-Louis, va élaborer de 1256 à 1265, le code dit des siete partidas, le code des sept parties. Un code de loi qui va marginaliser les minorités religieuses, juives ou musulmanes. Ces minorités devront désormais vivre dans un quartier séparé. Les juifs vont aussi devoir porter sur eux un signe distinctif, une rouelle. Les synagogues devront rester discrètes. L'interdiction de partager un repas entre chrétiens et juifs est réaffirmée. Enfin, un juif qui a des relations sexuelles avec une chrétienne est passible de la peine de mort. En Aragon aussi, pas seulement en Castille, la situation des juifs se dégrade. En 1263, le roi d'Aragon organise une disputatio, c'est-à-dire une controverse entre Paul Christiani, un juif converti au christianisme, et Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui vient de Gérone. Durant 4 jours, des débats ont lieu où chacun essaye de convaincre l'autre du bien fondé de sa foi. Alors, Nachmanide semble avoir l'avantage dans cette disputatio, et le roi d'Aragon d'ailleurs lui remet une bourse d'or, mais en revanche, peine pour avoir eu l'avantage dans les débats, il doit s'exiler, il quitte donc l'Aragon et va en terre d'Israël où il va créer à Jérusalem la synagogue Rambam. Puis il va ensuite s'établir à Akko, c'est-à-dire Saint-Jean d'Acre. Et le Talmud est interdit en Aragon. Les Juifs vont alors vivre dans ce qu'on appelle des juderias ou calles. Hein, ça vient de l'hébreu kal, qui veut dire communauté. Et on peut en trouver un très grand nombre. On en a dénombré peut-être plus de 100 000. Mais au XIVe siècle, cela va encore de mal en pis. D'abord avec la Grande Peste de 1348-1349, eh bien, ces Juifs sont massacrés massivement. Ensuite, lors de la guerre civile qui va opposer Henri de Trastamare, aidé par les grandes compagnies, c'est-à-dire les brigands, et le général Bertrand du Guesclin, contre Pierre le Cruel, bien lors de cette guerre civile de 1365 à 1369, les Juifs sont pris pour cible. On a néanmoins encore une persistance d'une science juive brillante, comme celle d'Abraham Kreskes, qui établit à Majorque, eh bien, réalise l'Atlas catalan, l'un des plus beaux portulans, c'est-à-dire l'une des plus belles cartes du Moyen-Âge. Le véritable tournant, c'est l'année 1391, avec des massacres massifs qu'on a appelés baptême sanglant ou Gizrot Kana en hébreu, hein, conversion forcée de 1551 aussi, hein, c'est dans le calendrier hébreu. Elle commence avec les prédications de l'archidiacre Ferrant Martinez dans le sud de la péninsule ibérique ou du dominicain Vincent Ferrier qui veulent forcer les Juifs à se convertir ou eh bien, les voir morts. Les massacres commencent à Barcelone le 4 juin 1391 avec plus de 5000 Juifs qui sont assassinés. Les synagogues sont-elles brûlées ou converties en églises? Ces émeutes se répandent dans toute la Castille, l'Aragon et la Navarre, notamment à Séville, à Cordoue, à Tolède. À Cordoue, on a compté plus de 2000 morts. Voilà. Et par conséquent, les Juifs eh bien, vont quitter cette péninsule ibérique en grand nombre, aller se réfugier notamment en Afrique du Nord, ou alors faire mine de se convertir au christianisme et continuer à judaïser en secret. Ces Juifs faussement convertis au christianisme, on leur donne l'épithète injurieux de Maran, qui semble-t-il signifier porc. La situation s'aggrave encore lorsque le 13 décembre 1474, Isabelle la catholique monte sur le trône de Castille. Elle est mariée à Ferdinand d'Aragon, et c'est ainsi que la Castille et l'Aragon vont s'unifier et donner naissance au royaume d'Espagne. Eh bien, ces deux souverains assignent de façon beaucoup plus stricte en 1480 les Juifs dans des quartiers séparés. Et surtout en 1478, eh bien, font appel à l'Inquisition qui s'établit donc en Espagne en 1480 et qui a pour tâche eh bien, de traquer les mauvais chrétiens. Et parmi eux, eh bien, les Juifs maranes, c'est-à-dire les Juifs qui feraient mine de, qui font semblant d'être chrétiens, mais qui continuent à pratiquer le judaïsme en secret. En 1483, le chef de l'Inquisition, le nouveau chef de l'Inquisition qui est nommé, est un dominicain. Il s'agit de Torquemada, lui-même issu d'une famille de convertis. On estime que durant les 13 ans où Torquemada a officié, plus de 2000 maranes sont condamnés à mort et brûlé vif sur la place publique. Le règne d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, c'est aussi la fin de la Reconquista, puisque Ferdinand et Isabelle rentrent dans Grenade le 2 janvier 1492. Les musulmans sont alors, eh bien, n'ont plus alors de pouvoir dans la péninsule ibérique. Et dès le 31 mars 1492, ils publient un décret qui ordonne aux Juifs de quitter la péninsule. Ils ont 2 mois pour le faire, et c'est donc jusqu'au 2 août 1492 que les Juifs ont pour soit quitter la péninsule ibérique, soit se convertir eh bien, au christianisme. De nombreux Juifs vont choisir de se convertir, on les appelle alors les nouveaux convertis, mais on se méfie d'eux, et des décrets, dits décrets de pureté du sang, limpieza del sangre en espagnol, vont être pris à partir de 1449 en Tolède, qui leur interdisent à ces nouveaux convertis d'exercer des fonctions d'autorité. Certains juifs aussi vont quitter la péninsule ibérique pour l'Amérique. Christophe Colomb, marin génois, eh bien, dans l'équipage qui le conduit jusqu'en Amérique en 1492, la moitié de l'équipage est juif. Et Serge Grusinski et Carmen Bernand, qui ont réalisé une très belle histoire de l'Amérique, développent tout un chapitre sur Christophe Colomb, où l'on peut supposer que Christophe Colomb était peut-être un juif qui judaisait en secret. D'autres vont quitter la péninsule ibérique, enfin l'Espagne plutôt pour le Portugal, mais aussi pour Bordeaux, c'est le cas de la famille de Montaigne, pour l'Italie, la Hollande, comme la famille de Baruch Spinoza, l'Afrique du Nord, et surtout l'Empire ottoman où ils sont accueillis à bras ouverts et ainsi diffuser la culture séfarade parmi les juifs orientaux. Et je vous propose de terminer sur cette musique d'Abraham Avinu, Luz de Israël, chantée en ladino, c'est-à-dire en judéo-espagnol, par Jeroam Garon. Alors vous pouvez me retrouver sur Dar et d'Histoire, un S à Art et un S à Histoire, pour des conférences d'1h30, et surtout, tous les lundis à la radio, de 16h30 à 17h. La giuderia che avia de nascer Abraham Avinu, Abraham Avinu, padre querido, padre bendicio.